partir celui-là. Il est 15h sur RCF Charente, pas de jingle de Top Horaire, c'est pas grave. Il est 15h quand même avec nous aujourd'hui dans cette émission spéciale consacrée aux 40 ans des radios libres et aux 100 ans de la radio en général. Et Bernard Vacara est avec nous, bonjour.
Oui, bonjour
ancien
à tous.
Ancien président de RDC, Radio Diffusion Charentaise, aujourd'hui vice-président de cette même radio. Avec nous également Bernard Genet, technicien.
Non, moi c'est Bruno.
Bruno, pardon.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
On pourra vous habituer, hein. J'ai toujours un problème sur les prénoms et les noms. Bruno.
Oui, c'est moi. Ça va
Oui, ça va.
Très bien.
Radio RDC, Radio Diffusion Charentaise, actuellement présent sur cette radio, hein, qui nous diffuse aussi, il faut le dire, hein, en ce moment sur RDC. Vous entendez le programme que nous proposons également sur Radio RCF. Et puis un troisième invité est avec nous, c'est Christophe Hénard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un ancien de Fréquence 92, une des premières radios libres en Charente. Enfin, quand on dit que c'était la première radio libre, on se bat encore là-dessus. On ne sait jamais qui selon vous.
Bah, je pense qu'effectivement, chaque radio estime avoir été la première. Si vous me demandez si Fréquence 92 était la première, je vous répondrai catégoriquement oui.
Oui, et si je vous dis que ce n'est pas RDC la première radio
Alors, moi je dis peut-être. Peut-être oui, peut-être non. J'aurais pas la prétention de dire oui, c'est la première radio, puisque à l'époque Marcel Bureau s'est battu et Monsieur Durisseau, c'est lui qui a eu la fréquence, hein, à l'époque. Et donc c'est la bataille des radios de l'époque, mais pour l'instant toutes les radios sont les premières radios associatives sont tous, je pense, en parallèle les premières.
Oui, je crois que tout le monde est arrivé en même temps. En tout cas, on fête notre anniversaire en même temps.
Oui,
je crois.
Voilà.
RDC, Radio Diffusion Charentaise, beaucoup disent que c'est Radio Cool Gens, c'est la même.
Alors,
c'est quoi l'histoire? Expliquez-nous vite fait, parce que l'histoire est longue. Mais...
L'histoire est assez longue, mais je vais être bref. Dans le sens où Radio Diffusion Charentaise a été demandée par M. Duruisseau. À l'époque, c'est lui qui a eu la fréquence, qui a demandé. Et donc, suite à ça, M. Durisseau a arrêté et c'est M. Marcel Bureau qui a pris la succession. Mais comme à l'époque, il fallait rentrer de l'argent. Mmh. Et toute association, puisque pour avoir une radio associative, il faut une association, on parlait là. Et pour rentrer de l'argent, il n'y avait qu'à l'époque que l'été dansant, les manifestations, et on avait droit à faire que six manifestations par an, merci. Donc, Marcel Bureau a eu l'idée de créer plusieurs associations autour de Radio Diffusion Charentaise. Il l'appelait Radio Coup de Jean numéro 1 parce qu'il était là-bas, à Coup de Jean même, mais en fait, toutes ces associations faisaient cité dansant qui redonnait l'argent à Radio Diffusion Charentaise. Quand j'ai repris la radio en 98, suite au décès de Marcel Bureau, on l'a appelé non plus Radio Coup de Jean numéro 1, mais on l'a appelé l'intitulé exact qui était Radio Diffusion Charentaise. RDC, on l'a intitulé RDC Radio Diffusion Charentaise.
Voilà.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle s'appelle Radio Diffusion Charentaise, mais on a gardé le même programme accordéon qu'ils avaient mis à l'époque.
Ouais.
Hein, beaucoup de rétro.
Vous étiez au courant de cette histoire, Christophe Hénard?
Oui, c'était à l'époque, effectivement, quelque chose qui naissait, tout ça. On disait en plaisantant, première, pas première, ça n'a évidemment pas beaucoup d'importance.
Non, tout à fait.
L'important, c'est que naissait quelque chose de nouveau, vraiment complètement nouveau, un nouveau média. Et c'était ça le plus important. Donc ça s'est joué effectivement à quelques semaines, quelques jours, etc. Mais il y avait une espèce de terreau qui était là, fertile sûrement depuis longtemps, mais sans autorisation. On n'avait pas le droit d'utiliser ce terrain fertile. Et tout d'un coup, sur une décision politique, puisqu'il faut quand même resituer ça dans un contexte, c'était une décision politique d'un candidat à l'élection présidentielle, qui était donc François Mitterrand.
Ah oui, tout à fait.
Et qui avait fait, parmi ses promesses de campagne, il avait fait celle-ci, c'est de dire « j'autoriserai ». Je libérerai la bande FM. Alors à l'époque, on ne disait pas bande FM, on disait modulation de fréquence, pour être tout à fait précis, qui était une bande son qui était très peu utilisé, puisque c'était, je crois, de y avoir Radio France notamment. Hein, et puis,
c'était pas la FM, en fait, qui a été utilisée à l'époque.
Non, c'était les autes ondes, les petites ondes.
Les petites et les grandes ondes.
Et la modulation de fréquence était effectivement très peu utilisée. Et donc François Mitterrand avait dit, je vais donner l'opportunité d'utiliser cette bande de fréquence. Et donc, de ce terreau fertile, enfin, il y avait évidemment des gens qui étaient très en attente, très en demande. Alors, les auditeurs, je crois, étaient très en attente. Peut-être qu'on va pouvoir développer un petit peu pourquoi. Et puis, il y avait des gens passionnés qui, eux, étaient aussi en attente de pouvoir...
S'exprimer,
pouvoir dire des choses et pouvoir diffuser des choses. Et que c'est la rencontre de ces deux attentes qui a permis, effectivement, la naissance de tout ça.
Ça avait été demandé au temps de Giscard, qui avait été refusé déjà à l'époque, et c'est Mitterrand qui a pris la décision de lancer les...
Voilà. Alors, puisque nous sommes en début de semaine, peut-être est-il bon juste de rappeler en deux mots, on va pas faire les historiens, mais qu'effectivement, c'était quelque chose de très ancien, puisque les radios pirates existaient déjà, et qu'elles émettaient dans des conditions illégales, et les plus célèbres qu'on peut citer, genre Radio Caroline en Angleterre, émettait depuis des bateaux hors eau territoriale pour justement échapper à ce corset, à cette contrainte. Donc effectivement, l'attente était là depuis longtemps et on diffusait déjà du rock, etc. Mais c'était illégal.
C'était et tout d'un coup, ça devenait illégal. Surtout, ce qui était illégal, c'était la puissance qu'on employait. Parce que nous, les radios associatives, on n'a droit qu'un kilo de PAR. C'est-à-dire un ampli de 250 watts à la base. Et à l'époque, vous avez des gens qui pouvaient émettre avec des puissances beaucoup plus illégales. Pour les radios associatives.
Moi, le souvenir que j'en ai, en tout cas, c'est qu'en tout cas, la bande FM était interdite d'accès. On ne pouvait pas émettre là-dessus. Je crois qu'il était, en plus, on parlait de problèmes de sécurité, qu'il fallait la laisser à l'armée, etc.
C'est pour l'armée,
ça se dit toujours, je crois, pour d'autres catégories d'ondes, notamment les ondes numériques, mais bon.
Donc il y avait une très forte attente, en tout cas, ça c'est une évidence.
D'envie de s'exprimer, hein, Bruno Genet, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous aviez envie, vous aussi, vous êtes de cette période-là.
Ah ouais, moi j'ai fait de la radio, d'abord, moi je suis de Paris, je suis parisien d'origine, je suis arrivé en Charente en 90, réellement, et voilà, parce que bon, avec des trucs de famille,
c'était personnel.
Non, c'était personnel, oui, tout à fait. J'ai quitté mon boulot en région parisienne, j'ai quitté Paris pour venir ici, mais j'ai déjà fait de la radio, effectivement. J'ai commencé, moi, ça devait être fin 81, début 82, avec une radio qui, je crois, existe encore, qui s'appelait Radio Aligre. Dans le 12e à Paris. Oh, c'était pas grand chose, hein. J'avais une rubrique simplement pour parler un peu de cinéma. Alors que j'allais pas au cinéma en plus à l'époque, donc c'est pas mal. Il fallait faire des commentaires, des petites critiques sur tel et tel film. C'était pas long, c'était pendant le cours d'une émission. J'intervenais, voilà, j'ai fait ça à peu près 6 mois. Après, j'ai mis en stand-by jusqu'à ce que j'arrive en 90 en Charente, où là, j'ai commencé avec Cool Jean Radio. Voilà, parce que j'avais un ami qui faisait partie de l'équipe d'animateurs. Je me suis dit, pourquoi pas moi ? Donc, je me suis lancé. J'avais fait, parce que ma grande idole, ça a toujours été Sheila.
Que vous avez sur votre t-shirt, non ?
Oui, c'est le hasard aujourd'hui, tu vois. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai voulu faire une série d'émissions sur elle, retracer sa carrière et tout ça. Donc, c'était tous les 15 jours le soir. Et puis, au bout de 3-4 mois, une fois que les émissions étaient finies, je me suis dit, j'aimerais bien rester quand même. Alors j'ai vu effectivement le directeur de l'époque qui était Marcel et je lui ai demandé s'il pouvait me trouver un créneau et je me suis mis au samedi matin, 2h. Mon émission s'appelait Matin Câlin. C'était hyper sympa, une émission divertissement. On faisait des anniversaires en direct, on faisait gagner des cadeaux parce qu'à l'époque on pouvait avoir des partenaires qui nous offraient des choses. C'était moins compliqué qu'aujourd'hui. Et puis voilà, je me suis lancé comme ça.
Et puis l'interactivité avec le public était beaucoup plus facile, j'ai l'impression, années 80.
Ouais,
les gens appelaient. Aujourd'hui, ils sont plus timides.
Enfin, ils s'appellent quand même.
Quand même pour dire que si vous avez des questions à poser ou des témoignages à nous donner, vous pouvez appeler le 05 45 95 13 35. 05 45 95 13 35, c'est le numéro ici en régie. C'est Amandine qui vous répondra directement au téléphone. Et puis évidemment, vous pourrez passer à l'antenne ensuite pour témoigner. 05 45 95 13 35.
Et on peut leur dire, ne soyez pas timides.
Ne soyez pas timides.
Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs, auditrices qui sont de l'époque, et je pense qu'ils ont beaucoup de choses aussi à nous dire. Les événements de l'époque, le genre de musique qu'ils aimaient, enfin plein de choses qu'il n'y a plus aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup plus de contraintes aujourd'hui qu'à l'époque. À l'époque, on pouvait se permettre de dire des choses en direct à l'antenne. Je me suis vu, Marcel Bureau, engueuler des gens en direct à l'antenne, qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de faire ça.
C'était plus libre aussi, cette parole, sur Fréquence 92, oui. Christophe Hénard.
Ah oui, tout à fait. Enfin, je veux dire, il y avait... ce média nouveau, il ouvrait, enfin, il enlevait un carcan, évidemment. Les gens pouvaient s'exprimer. Alors, ce qui est important, là, c'est vrai que c'est depuis ces dernières semaines, on a beaucoup témoigné les uns les autres, on a lu beaucoup de choses, etc. Et parfois, ce qui est remonté, c'est plutôt des anecdotes. Et au-delà des anecdotes, c'est vrai, c'est bien les anecdotes, mais je pense que ce qui était important, c'était ça, c'était cet enthousiasme et cette façon nouvelle d'écouter la radio. C'est-à-dire que moi, je me rappelle vraiment cette possibilité qu'avaient les gens de enfin, d'abord, entendre des choses qui parlaient d'eux, proches d'eux, avec des voix qu'ils reconnaissaient, avec parfois des gens qu'ils connaissaient. Ils pouvaient même participer à la programmation, puisqu'ils pouvaient demander des disques. Et en plus...
Ouais, les fameuses spéciales dédicaces.
Ouais, les dédicaces. et en plus...
Que
en
nous,
plus,
nous avons encore.
C'était des studios ouverts. Comme moi, je me rappelle, les gens rentraient, je veux dire, dans la partie technique.
Justement, ce que vous dites...
Et ça, c'était extraordinaire. C'est-à-dire, pouvoir, pour eux, pour les auditeurs... entendre des gens de chez eux, parler d'eux, écouter, etc., demander des choses et venir voir, ben c'était complètement nouveau, quoi. Vraiment complètement nouveau.
Faire du local.
Ce que vous faites, absolument. Ce que vous venez de dire, c'est ce que nous faisons absolument. Quotidiennement.
Absolument.
On n'a pas de... C'est ce qu'on fait, nous, à la radio, où il y a le contact humain, le contact comme les gens sont à la maison, et c'est du live. Alors que beaucoup de radios sont en enregistrement, pré-enregistrement pour passer. Aujourd'hui, c'est du direct.
Oui, mais c'est pour ça que c'est vraiment de se remettre dans l'ambiance du départ. C'est effectivement une occasion de rappeler tout ça. C'est de dire qu'effectivement, les anecdotes, tout ça, c'est bien. C'était parfois un joyeux bazar et heureusement que c'était comme ça. Il y a effectivement des anecdotes de choses qui fonctionnaient, qui fonctionnaient pas, là, là. Mais vraiment, l'important, c'était ça. C'était l'enthousiasme que ça représentait. Et pour ceux qui écoutaient, et pour ceux qui le faisaient. Ouais, vraiment, c'était une aventure humaine extraordinaire. Et ça, c'est vraiment la base du truc, quoi. C'était un enthousiasme partagé, un truc vraiment fabuleux. Et qui, je pense, n'a pas été... moi, personnellement, j'ai jamais rien vécu d'autre, hein, professionnellement, d'aussi fort. C'est vraiment une période de ma vie qui encore, 40 ans après, me marque. Et quand j'en parle, quand j'y repense, je me dis, mais bon sang de bois, qu'est-ce que c'était bien, quoi. Qu'est-ce que c'était chouette.
Mais vous faites de la radio encore?
Non.
Non, un petit peu. Non, un petit peu ici, mais non. Enfin, j'ai fait une autre carrière que la radio.
Oui.
Mais voilà, j'en garde. J'en garde. C'est la chose la plus forte, moi, émotionnellement, professionnellement, que j'ai vécu, en tout cas.
Ça prend au cœur.
Ah oui, non, absolument.
Bah, en fait, comme tout métier artistique, hein, on le fait non seulement avec la joie, la bonne humeur, et finalement, c'est aussi l'amusement. C'est ça qui est important.
Bon, on va revenir sur ces émotions qu'il y avait il y a 40 ans, après avoir entendu La Mano Negra.